Dissonance.
Trois fois par mois, pendant une heure, nous ferons ensemble un pas de côté pour prendre le temps d'écouter des voix dissonantes et de découvrir des parcours de vie qui portent un éclairage différent sur nos vies, nos luttes et nos espoirs.
Dissonance.
Joseph Fula sur Radio Saint-Afrique.
Quiero decir que yo era en aquellos años un joven estalinista.
J'étais dans ces années-là un jeune stalinien, mais je ne savais pas que Staline était responsable de la mort d'un million et demi de personnes. J'étais un jeune maoïste et je ne savais pas que Mao Tse-tung, avec sa révolution culturelle, a été responsable de la mort de millions de personnes, sans parler de la terrible oppression qui sévit encore aujourd'hui au Tibet. J'ai soutenu quelques mois la révolution cambodgienne et j'ai découvert que le massacre était pire. C'est horrible. Pour moi aujourd'hui, avec le recul, l'essentiel, c'est de voir la démocratie comme un objectif de lutte permanente.
Notre invité de ce mois-ci, après sa retraite récemment, enseignant d'espagnol à Toulouse. Pour ses étudiants, il était un excellent pédagogue. Il est toujours un excellent pédagogue, amoureux de sa langue et attaché à en transmettre les secrets de sa gracieuse et douce musique. Et ce n'est que lors de son discours pour son départ en retraite, il y a quelques mois, que beaucoup ont découvert que notre invité était une mémoire vivante de la résistance au franquisme, version espagnole du fascisme. Bien plus qu'une mémoire, notre invité fut un acteur de cette résistance, car les blessures corporelles de la police franquiste, il les garde encore imprégnées en lui, tout comme les souvenirs des périodes passées en prison. Notre invité, Enrique, est galicien, une région d'Espagne dont il est plus souvent question quand on parle de culture celte ou de religion, notamment du chemin Saint-Jacques de Compostelle et de son pèlerinage. Pourtant, Enrique va nous donner une autre image de la Galice, que lui et sa famille portent en eux. Une vision de résistance au rouleau sanguinaire et compresseur du totalitarisme. Dès les premiers jours de juillet 1936 jusqu'aux derniers jours de l'année 1975, la dictature espagnole a mené nombre d'antifascistes ou tout simplement d'hommes et de femmes humanistes sur les sentiers de la mort. Enrique Fraga, notre invité du mois, était de ces jeunes révolutionnaires qui exécraient le fascisme. Manifestations interdites, distribution clandestine de tracts, réunions secrètes, pseudonymes, tout ça n'était pas un jeu. Tout ça menait un jour ou l'autre au cachot de la garde civile. Là, comme Enrique et José, se sont retrouvés des antifascistes dont le destin sera différent. Pour l'un, le chemin de l'exil, pour d'autres, la route du peloton d'exécution, et pour les deux, une soif de justice et de liberté. Enrique Fraga nous a fait l'honneur de nous raconter son histoire qui nous fait revivre la résistance des jeunes Espagnols des années 1970, la destinée cruelle de son ami José Humberto Baena Alonso, fusillé par Franco le 27 septembre 1975, l'accueil des exilés politiques espagnols à Toulouse et la soif de reconnaissance qu'il a pour tous ces Français qui l'ont accueilli, à bras ouverts, sans poser de questions, lui, Enrique Fraga, ce fils de Galice.
Je pars ce soir, tu pars demain. Souviens-toi de nous, Galice. À temps creusé ta silice, on ne gagnait plus le pain. Il restera des orphelins, des arpents de solitude, aussi la longue habitude d'écouter pleurer les chiens qui rentrera. Le grain, le foin, les fruits des étés pourrissent, les vieux vergers de Galice gémissent dans le vent marin. Partons ce soir. Partez demain. Galice a trop creusé ta silice. Jamais vers toi nul ne revient.
Dissonance
avec
Enrique Fraga
sur Radio Centrafrique.
Alors Enrique Fraga, tu as traversé les Pyrénées à pied en 1971 pour fuir une Espagne que peu de nos auditeurs connaissent aujourd'hui. Comment était cette Espagne au début des années 70?
Oui, on parle beaucoup des réfugiés de la guerre espagnole dans la région, c'est vrai, et on connaît beaucoup moins des personnes qui sont arrivées pendant le franquisme, moins nombreuses, et qui n'étaient pas forcément des réfugiés économiques, mais des réfugiés politiques. Moi, j'étais étudiant à Saint-Jacques-de-Compostelle, et je ne pouvais pas supporter le manque de liberté qu'il y avait en Espagne. Je n'étais pas le seul. Quand je suis arrivé à Toulouse, je me suis rencontré avec, on était une dizaine d'abord à venir de Saint-Jacques-de-Compostelle à Toulouse, mais on s'est retrouvé avec une cinquantaine de jeunes réfugiés politiques qui étaient différents de ceux qui étaient venus au moment de la guerre et différents de ceux qui étaient venus dans les années 40, 50, c'est-à-dire bien quelques dizaines d'années après la guerre. Et bon, c'était la dictature de Franco, c'était. Mais on oublie qu'est-ce que c'est que vivre dans un pays où il n'y a pas de liberté, où il n'y a pas de liberté de réunion, de liberté de pensée, de liberté d'expression, de liberté de presse. On lisait les auteurs interdits clandestinement, on les éditait clandestinement, comme les Vietnamitas, les Ronéo, on faisait de reproduction, et c'était un délit. D'ailleurs, on devait cacher, on cachait les livres, on changeait les couvertures des livres et tout, parce que on pouvait pas montrer qu'on lisait des livres interdits, ou si on était attrapé, ça pouvait être une cause. Moi, j'ai des amis qui sont fait arrêter parce que je leur avais passé des livres uniquement, alors qu'ils n'étaient pas militants de quoi que ce soit, mais ils sont passés une nuit au commissariat, ils ont eu des menaces de procès, finalement comme les livres c'était moi qui leur avais passé, ils n'ont pas eu de procès, la famille était embêtée, du coup les gens ils me parlent moins parce que j'étais considéré communiste. À l'époque, tout le monde était communiste, rojo, hein, le rouge, le communiste, c'est-à-dire les anarchistes, les socialistes, étaient tous des communistes. Pour Franco, c'était comme ça.
À quel âge as-tu commencé à ressentir ce poids de la dictature fasciste sur tes épaules?
Mais enfin, c'est un peu difficile parce que tout petit à l'école, j'avais du mal à accepter qu'on nous oblige à chanter l'hymne de la Falange, Cara al Sol, avec le bras levé devant un drapeau. On avait un instituteur falangiste. Et je ressentais que mon père n'était pas d'accord, mais on n'a jamais parlé. Mon père est mort en 64 et on n'a pu jamais parler avec lui de ces questions. Et donc, mais je commençais en fait au lycée, malgré le franquisme, il y avait des profs formidables, un prof de philo et un prof de littérature, que je me rappelle qui disait qu'il ne pouvait pas se présenter pour être prof d'université, parce que chaque fois qu'il se présentait pour un concours, il voyait qui était aujourd'hui, des gens de l'Opus Dei, des gens de la Falange, et il nous disait, je sais que j'ai aucune chance. Donc je devais avoir 15 ans, 16 ans, et on était déjà réveillés au fait qu'il y avait des gens qui avaient des idées différentes, des idées qui étaient en vigueur sous la dictature de Franco, et qui avaient un esprit très ouvert, très tolérant, des gens qui étaient heureux, joyeux de vivre, qui nous avaient apporté beaucoup de connaissances, de la littérature, nous invitaient à lire Sartre, c'est-à-dire tous les livres qui étaient autorisés, mais qui nous invitaient à lire Unamuno, et d'autres penseurs espagnols, et enfin qui nous ouvraient au monde. Donc là, il y a une prise de conscience très très forte.
Et tu parlais de ton père tout à l'heure, mais l'idéal républicain, c'est quelque chose que lui aussi portait en lui, puisque je crois que ton père était le responsable du Café Suisse, où il y a eu pas mal de gens de gauche qui sont passés.
Oui, le café Suisse, c'est mon père qui, dans les années 30, a pris la gestion. Et ces cafés suisses ont été un café où se réunissaient les intellectuels de Galice, souvent, Badin Clan, García Lorca est passé par là aussi. Et c'était un café théâtre où il y avait des variétés, des gens qui venaient des chanteurs, des gens qui jouaient de la musique et de la guitare, qui venaient de Madrid, de Barcelone, d'Andalousie. Et donc il était très connu.
Et ce café donc a été fermé après par l'État franquiste.
Mais oui, d'abord, ils l'ont fermé. Mais ils l'ont fermé parce que l'argument qui a été donné, que j'ai appris beaucoup plus tard, hein, parce que c'était pas qu'era una casa de putas. J'ai vu que mon père avait eu des amendes parce qu'il avait permis ou fermé les yeux au fait que des artistes qui venaient de Madrid, parfois ils montaient dans l'hôtel, couchaient avec un client ou avec un acteur ou avec un spectateur avec lequel il avait sympathisé. Mon père devait trouver ça tout à fait normal, comme on le trouverait tout à fait normal dans notre époque. Les gens sont libres de mener leur vie. Et donc c'était mal vu, c'était qu'il n'y ait pas dans le Saint-Jacques catholique traditionnaliste qu'il y ait cette liberté de mœurs un peu. Je pense que c'est ça. Et je dis ça parce qu'un jour, dans un hommage à Antonio Machado à Collioure, j'ai eu l'occasion de rencontrer Camilo José Cela, qui c'était juste les dernières années du franquisme, et c'était un jour de grande pluie. On était dans un café parce qu'on ne pouvait pas trop se promener dehors, et juste dans ce café est rentré Camilo José Cela avec une dame blonde très, très jolie qui nous a présenté comme sa secrétaire, et on lui a dit de venir s'asseoir avec nous. Il a accepté volontiers. Je ne sais pas si vous savez qu'il était très grossier, il était un peu comme Dali, une personne exubérante, provocatrice, qui sait. Alors je lui dis d'entrer, donc Camilo José Cela, usted debió conocer el café suizo, vous avez dû connaître le café suizo. Il dit, oui, je connaissais le café suizo comme j'ai connu toutes les maisons de prostitution de toute la Corogne. Là, c'était le premier choc, j'étais jeune, j'ai eu un choc, je lui dis, mais pourquoi vous dites ça? C'est mon père qui tenait le café suisse. Alors là, il a changé le regard, il m'a dit, tu peux être fier, a mucha honra.
De madrugada, cuando el cielo aún está rojo, y el camino de mi vida ya marcado, cogeré todo el amor que tú me has dado y marcharé a despertar al dormido por la tierra y en la tierra mi camino. Junto al hombre que en su muerte aún está vivo, junto al humo de las fábricas y el trigo, solo, solo luchando, no seremos vencidos. Si hoy no cierran las ventanas de la vida, si hoy nos atan con los yugos encendidos, contra ellos están los muertos y los vivos, contra ellos estás tú, yo y todos. Y volveremos a sentir nuestra la tierra. Y el aire llegará otra vez a todos. Y mirando atrás veremos quiénes fuimos. Y luchando hoy, quiénes somos. Por la tierra y en la tierra nuestro camino, junto al hombre que en su muerte aún está vivo, junto al humo de las fábricas y el trigo. Solo, solo luchando, no seremos vencidos.
Donc on retrouve le jeune Enrique Fraga en 1965, il a à peu près 15 ans, il a pris conscience avec ses profs un petit peu qu'il y a d'autres choses qui peuvent exister. Vous allez vous retrouver avec quelques amis, vous allez décider de faire quelque chose. Comment commence ton activité militante?
On avait créé au lycée un groupe qui s'appelait CUPA, Conocer la Verdad para Actuar.
Connaître la vérité pour agir.
Voilà, exactement. Et puis on se réunissait, on jouait au clandestin, on se réunissait dans un café, on disait, on a appris qu'à Ferrol, los astilleros de Ferrol, il y a des ouvriers qui ont été torturés, ou il y en a un qui a été, dans une manifestation, a été blessé. On a appris qu'au Pays Basque, il y a un groupe qui a été créé, ETA et tout ça. Bon, oui, alors les actions de l'ETA, on parlait du commissario Manzano, qui était un torsionnaire de l'ETA. Il s'est mis des gens comme ça, c'est pas possible qu'ils existent. On discutait, on essayait de regrouper des articles de presse qu'on savait, et on faisait des dossiers par sujet. Mais je me suis rendu compte qu'on ne faisait rien, qu'on faisait que discuter dans les cafés, que c'était très bien intellectuel. Les gens nous regardaient, tout ça, mais c'est des gens, tout ça. Mais c'est ce qu'ils faisaient à l'époque, les socialistes. Les socialistes. Bon, les socialistes, ceux qui étaient dans la rue, qui s'est mouillé, qui allaient aux manifestations, étaient les communistes. Peut-être les anarchistes, mais je ne connaissais pas à l'époque. Mais les socialistes se réunissaient dans des cafés, c'était des révolutionnaires de cafés, d'opinion et tout ça, et qui ne dérangeaient personne. Et donc, je ne peux pas dire qu'ils étaient tolérés, ils étaient interdits. Mais tout le monde savait quand elle était socialiste, mais on ne les voyait jamais rien faire pour changer la dictature. Donc moi, j'ai arrêté de voir mes copains parce que j'ai dit ça mène nulle part. Et j'ai commencé à aller au manifeste. Il y a eu mai 68 qui a été une vraie petite révolution en Espagne. Tout ça mélangé avec la musique de Beatles, une façon d'interpréter le monde différente, de voir la réalité d'une autre façon, et un envie de liberté qui grandissait de tous les côtés. Alors, je commençais à aller aux manifestations. J'avais un frère qui n'est pas particulièrement engagé, mais dans ma famille, on est 9 frères et sœurs, et on s'entend tous très bien. Il y en a qui sont de droite, de gauche, ou d'extrême gauche, on s'entend tous très bien. Et mon frère qui allait, qui a participé à l'occupation de l'université.
De Santiago.
De Santiago. Et mon père était déjà décédé, et ma mère était un peu inquiète, tout ça. Et moi, j'étais passionné de ce qu'il me racontait, ce qui s'est passé dans l'Assemblée Générale, j'étais encore au lycée et tout. Et donc, je commençais à m'engager, à aller aux manifestations. Il me disait, il paraît qu'il y a une manifestation, il ne faut pas y aller. Il dit, ouais, tu t'occupes du bar, et j'y vais. Parce qu'on avait, déjà tout petit, on travaillait avec ma mère. Ma mère gérait l'hôtel, et nous, on s'occupait, on avait un café-bar, donc on servait des clients. On avait du personnel, mais de moins en moins de personnel, on les faisait nous-mêmes. Et donc, j'allais à toutes les manifestations. Alors, je commençais à être connu à Saint-Jacques, parce que, évidemment, Saint-Jacques, c'est quand même petit. À l'époque, il y avait 70 000 habitants, ou 60 000. Aujourd'hui, il doit avoir 100 000 habitants. On n'arrive pas à 100 000 habitants. Mais finalement, Saint-Jacques, c'est assez petit. Les gens de Saint-Jacques même se connaissent bien entre eux. J'allais aux manifestations, et là, un groupe de maoïstes m'avait repéré. Ils ont pris contact avec moi, ils m'avaient été voir, ils disent pourquoi, tout ça. Moi je me méfiais beaucoup. Ils disent est-ce que c'est des gens de l'Opus Dei, est-ce que c'est des gens, bon, les sectes, ça, mais... parce que je connaissais des amis qui étaient tombés dans les griffes de l'Opus Dei, qui étaient devenus très croyants, ils se sont séparés, ils avaient trouvé une voie complètement manque de liberté, quoi. Et je disais, il faut se méfier. Hein. On disait, qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi vous voulez me voir? Il dit, non, mais on te voit dans les manifs, on te demande simplement de faire une coordination avec nous. Il faut qu'on soit efficace pour lutter. Il dit, ah bah d'accord, si c'est que pour ça. Il dit, alors on te dira quand il y a les manifs, et on se met d'accord quand, pour l'organiser. Ah, oui, mais moi j'étais de Saint-Jacques, c'était des gens souvent qui venaient de Madrid, de Barcelone, qui étaient de Ferrol, de Vigo, qui ne connaissaient pas bien les ruelles et tout. Et dans le lycée, il y avait un policier inscrit au lycée. On va l'appeler Fernando, Fernando, je ne me rappelle pas exactement comment il s'appelait, qui venait au cours du prof de philo.
Pour écouter s'il ne disait pas des choses.
En même temps, il était. C'est rare un policier instruit, parce que les policiers, d'habitude, n'avaient jamais le bac. Et celui-là, il se préparait pour avoir le bac. Donc il était instruit. Pour nous, il était un policier. Mais on voyait qu'il était plus âgé que nous. Il portait toujours une gabardine, un peu comme le CSS allemand, avec parfois un chapeau. Il était très particulier. Et on les connaissait. Moi, je l'ai taquiné. On les connaissait. Et un jour, il m'a dit, fais attention, on te voit dans les manifs. Hein. Tu sais, mes collègues, ils t'ont repéré, on te voit dans les manifs Saint-Jacques. Je dis, putain, mais je ne pourrais pas aller aux manifs, alors comment je veux faire? Parce que Saint-Jacques, ma mère, ne savait rien. C'est là que j'ai décidé de me déguiser. Je me suis mis une perruque, une moustache. Évidemment, je me suis fait arrêter.
On t'accuse d'avoir insulté un
voilà,
policier.
Voilà, parce que dans le café qu'on avait, il n'était pas trop loin du quartier de la Guardia Civil. À Saint-Jacques, il n'y a rien de loin. On peut se promener à pied tous les centres de Saint-Jacques. Et on n'était pas très loin du quartier de la Guardia Civil, ni de la police. Et à l'époque de Franco, chaque fois qu'il y avait une personne qui venait à l'hôtel, je devais porter El parte. El parte, c'est-à-dire une sorte de faire-part. Chaque personne qui arrivait, il fallait remplir le nom, prénom, la carte d'identité et tout, ou le passeport, et les porter dans le 2 ou 3 heures qui suit au commissariat central, où on contrôlait tous les gens qui venaient, qui rentraient à tous les niveaux. Et donc, comme c'était moi qui allais le plus souvent au commissariat porter los partes, je connaissais des vues, et puis je connaissais du bistrot, des gens qui venaient jouer au domino et tout, tous les flics et les gardes civils.
Et donc, Enrique, tu pouvais même donc dénoncer les policiers à tes camarades.
Ben voilà, donc dans la rue, je les connaissais parfaitement. Moi, j'étais déguisé, mais sinon, ils m'auraient reconnu eux aussi. Et donc, quand je voyais dans les manifestations un policier, je disais, ah putain, là, celui-là, cabron, policier, cabron. J'ai crié à un, los grises, la police chargée contre nous, on courait dans les ruelles et tout ça, et je disais, attention, méfiez-vous, celui-là qui est déguisé, enfin, vestido de paisano, est un civil, en fait, c'est un flic de la brigade politico-sociale, c'est un garde civil habillé, méfiez-vous, c'est pas quelqu'un qui est dans la manif ou que... que les manifestations devenaient de plus en plus importantes. Il y avait eu des morts à Madrid, il y avait commencé à avoir des états de déception, l'état de siège, l'état de déception provoqué par les attentats de l'ETA. Quand on parle de l'ETA, il ne faut pas la regarder avec les yeux avec lesquels on la regarde aujourd'hui. À l'époque, c'était des gens qui avaient choisi la lutte armée comme seule solution pour finir avec la dictature. Et c'est une question que nous, on s'est posée aussi. On s'est dit, on ne peut pas supporter cette dictature. Cette dictature est arrivée par les armes. On ne pourra se débarrasser qu'avec les armes. On commençait à se poser des questions comme ça. Il n'y a qu'une lutte radicale qui pourra finir avec cette dictature. Mais on n'était pas très nombreux à réfléchir ça. Parce que, en fait, ce qui pousse à l'action, c'est de comprendre bien les injustices sociales ou les inégalités. C'est là qui déclenche un mouvement. Quand on a de la culture, quand on a une information, quand on connaît les injustices et comment on peut les résoudre, c'est là qu'on a une volonté d'agir. En tout cas, nous avions une volonté de finir avec les franquismes. On était un groupe de jeunes. Thank you.
dissonance
avec
Enrique Fraga
sur Radio Centrafrique.
Je me suis trouvé coincé dans une rue avec les flics de tous les côtés. Ils nous ont fait une trampe, ils nous sont coincés dans une rue. Je rentrais dans un portail et là, dans les noirs, ils sont rentrés pleins de gris, ils m'ont tabassé. Et je profitais pour m'arracher la perruque et ils m'ont amené au commissariat. Ils m'ont dit, mais en fait, tu n'étais pas à la manif, il m'a dit, le Fernando, celui qui me connaissait bien, parce qu'on t'est cherché pour savoir si tu étais pour t'arrêter. Il dit, non, voilà, il vient de le dire, je n'étais pas à la manif, donc vous devez me livrer. Il dit, tu parles. L'autre, il a dit, oui, c'est lui. Il dit, mais vous êtes sûr que c'est moi, parce qu'évidemment, j'avais une perruque. Il dit, vous vous trompez. Il dit, oui, c'est vous. Il dit, mais non, vous avez dit qu'il y avait le cheveu long. Non, c'était pas moi. tout le monde a dit, alors ils m'ont mis en el calabozo. Hein.
La cellule,
oui, du commissariat. Et jamais, j'étais rentré souvent au commissariat, mais au bureau, jamais j'avais vu ça. Il y avait des traces de vomi, des sous, des choses. Il n'y avait qu'un truc en ciment. Et j'ai dû dormir là une nuit. Mais avant de dormir, ils sont allés chercher ma mère. Non, ma mère a téléphoné. Ils sont allés chercher ma mère. Ils lui ont dit, vous savez, votre fils a dit des choses qu'on ne peut pas reproduire à une dame comme vous, de votre âge, mais il dit des grossièretés, des insultes contre tout, les institutions, mais très, très, très fort, on ne peut pas vous dire tout ça. Alors je vois ma mère, il ne voulait pas la laisser me voir, mais comme il connaissait évidemment les policiers qui étaient des clients, il dit, allez, je vous en prie, arrêtez, laissez-moi les voir, il faut que je les voie. Il y en a un qui a dit, bon, écoutez, bon, on va vous laisser le voir. Elle est venue en pleurant, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui s'est passé? On m'a dit que tu as fait des choses, et tu as dit des choses. Il dit, arrête maman. Je dis, pour le ce flic est un cabron, c'est un con, c'est tout. Je c'est pas des conneries. Ah, il s'était entré derrière un couloir, et ah, et il reconnaît qu'il a insulté les forces de l'ordre. Bon, ils m'ont signé, bon, tu l'as reconnu, que j'ai dit oui, je signais, que j'avais dit policier à cabron et tout ça. Et il y a eu un procès à Madrid, tribunal de la République, parce qu'à l'époque, tous les gens qui étaient arrêtés à Andalousie, País Vasco, Galicia, Catalogne, on devait aller à Madrid, au tribunal de l'ordre public. Et là, j'ai dû prendre un avocat et ma mère était un peu désespérée parce qu'elle me disait, écoute, tu comprends pas que faire de la politique, il faut de l'argent, il faut payer l'avocat, il faut payer les trains, il faut payer l'hôtel, il faut venir, il faut payer les amendes et tout ça. En fait, j'ai appris après qu'un oncle curé que j'avais, c'est lui qui avait payé les amendes pour moi, pour que me faire sortir du prison. Et pour... Bon, alors, ce qui fait que quand ils m'ont arrêté une deuxième fois, j'étais déjà... Comment on appelle ça, un récidiviste,
c'est... Oui, récidiviste.
Récidiviste, oui. Oui. Réincidente en espagnol, récidiviste. C'est récidiviste, donc je...
Tu avais une peine de sursis, par exemple, déjà?
J'avais déjà 6 mois avec sursis.
Donc, suite à quoi, ces 6 mois?
À la manif, où on m'accusait d'avoir fait une manifestation illégale, propagande illégale, insulte aux forces de l'ordre... Je ne sais pas quoi. Et pour ça, il m'a demandé, 3 mois pour insulte aux forces de l'ordre, 3 mois pour manifestation illégale. Les manifestations étaient interdites. Interdites, c'est-à-dire 3 mois de prison parce qu'on a manifesté dans la rue. Il faut bien entendre ça pour comprendre qu'est-ce que c'est que le manque de liberté et comprendre, ça pourrait arriver en France, ça pourrait arriver à n'importe quel pays. Comment, lorsque des gens fascistes prennent le pouvoir, peuvent supprimer les libertés élémentaires des manifestations et être condamnés parce qu'on n'avait pas le droit de sortir dans la rue, on n'avait pas le droit de se réunir, on n'avait pas le droit. Donc 3 mois et 3 mois, ça faisait 6 mois. Mais l'avocat y avait bien défendu. D'abord, j'ai dit que c'était faux, que j'avais chanté l'international, que j'avais chanté la Marseillaise. Et je le rappelais au juge que la Marseillaise était l'hymne de France, comme on peut chanter l'hymne d'Espagne, l'hymne de notre pays. C'était une façon de chanter ensemble dans la rue, mais que c'était pas. Bon, j'essayais de minimiser. N'empêche que j'étais condamné à 3 mois et 3 mois, donc avec sursis, c'est-à-dire, attention, la prochaine fois, vous. Et donc. Quand ils m'ont arrêté à nouveau, je perdais donc ces bénéfices, je devais appliquer cette peine. Oui, et ils m'ont demandé 2 ans et demi plus Je devais faire le service militaire.
Et tu arrêtes à nouveau, pourquoi, Enrique? Parce que tu étais dans ce groupe, voilà. Tu es rentré dans un groupe maoïste, c'est
voilà.
ça
Voilà, je suis rentré dans un groupe maoïste qui s'appelle le Partido Comunista Internationaliste, PCI, et qui, en fait, était dissident du Partido Comunista. On critiquait le communiste comme étant des révisionnistes fidèles à Moscou, et en particulier Santiago Carrillo et son groupe, bien que je reconnais qu'il était le plus actif dans la lutte contre Franco. Et donc on a créé un groupe qui est devenu à la suite le Partido del Trabajo, en Espagne, un parti qui a failli être important, un peu dans la dynamique de Podemos actuellement, mais qui n'a pas réussi à avoir un élu et s'est autodissous avec la démocratie. Mais le Partido Comunista International. Et donc, on avait créé une cellule. Et là, c'est vrai, on commençait à éditer des tracts en quelques semaines, en quelques mois. On a évolué très vite. Et on lançait des octavillas, des tracts. À l'université, en fait, on était dégagés. On montait en haut de l'escalier, on les jetait. On avait plein de techniques, des tactiques pour faire des manifestations et pour distribuer des tracts sans se faire arrêter. Et on appelait, on disait des choses du genre « il faut finir par la violence avec la dictature, c'est la seule solution que tous les peuples se soulèvent pour faire une révolution sociale et instaurer la démocratie ».
Vous appeliez donc à la lutte armée.
Voilà, un peu, voilà. Oui, c'est, du coup, on était considéré comme l'effet, voilà, l'effet d'appeler à la lutte armée, comme n'importe quelle personne en France appellerait une révolution sociale, et avec un changement radical. Mais l'effet d'appeler à la lutte armée nous considérait comme donc susceptible, ce qui est fait, de devenir, passer un consejo de guerre. D'ailleurs, c'est les militaires, après, quand ils nous sont arrêtés, c'est pas la police qui s'occupait de nous, les militaires. On est passé à dépendre des militaires. C'était l'héritage, on était le dernier à avoir cet héritage en 1969-70 du franquisme.
D'accord. Et donc, ils t'ont arrêté pourquoi et comment?
Ils m'ont arrêté parce que c'était association illégale. C'était plus manifestation et tout ça, mais association illégale, propagande illégale.
Mais comment ils ont su que tu étais à l'initiative de tout ça avec
parce
tes camarades?
En fait, on était un groupe peu nombreux et on avait un nom de guerre. Hein, c'est-à-dire que je ne connaissais pas les noms des autres personnes, je savais uniquement, on s'était mis d'accord pour qu'on m'appelle Luis. Donc j'étais Luis. Et il y en avait un qui était le secrétaire, enfin qui avait une liste, hein, ça c'est des erreurs de jeunesse.
Il avait tout mis sur papier.
Oui, il avait tout mis sur un papier, lui, Enrique Fraro. Je ne sais pas s'il a tout mis sur papier ou quand ils l'ont torturé, quand ils l'ont frappé, s'il a fini par avouer. Et en tout cas, moi, quand ils m'ont arrêté, ils m'ont dit « t'es lui ». Ils m'ont frappé pendant 2 jours, brutalement, jusqu'à ce que j'avoue que j'étais lui. À la fin, j'ai dit « je suis lui, je suis Manolette, je suis prêt à dire n'importe quoi pour que, parce que je souhaitais que mourir ». C'était horrible. Hein. Je ne peux pas dire que ce soit de torture comme ils subissaient au Pays Basque. Mais oui, mais c'était une sorte de... C'était très, très dur, très dur. Il m'a frappé. D'ailleurs, je saignais, j'étais menotté à l'arrière, et il me donnait des coups dans les ventres, partout, dans la figure, je saignais par les lèvres. Comment on appelle ça, là,
les menottes.
Avec le cou, c'est un truc qui s'enclenche, donc il s'en serrait dans la chair. C'est pour ça que quand ils me les sont enlevés, je saignais par les poignets. Et donc, voilà, donc j'en pouvais plus, j'ai fini par avouer. Et là, ils m'ont ramené à la caserne, une fois que j'ai reconnu que j'étais Luis. Donc il m'a dit, après, tout tombe dessus, c'est illégal, cellule communiste, appel à la destruction de l'État par la force armée, menace dans des conseils de guerre, etc. Et donc on m'a amené chez les militaires. J'étais très surpris parce que les militaires qui m'ont... Bon, j'ai traversé tout Saint-Jacques comme on voit dans les films encore, dans une fourgonnette, un Land Rover de la Guardia Civile sans capot, et entouré par des gardes civils avec des mitraillettes. Et j'ai voyé mes amis là qui me voyaient. Je me rappelle un garçon qui tenait un commerce qui était en train de changer la vitrine. Il me regardait bouche bée et il dit c'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils devraient penser les gens? Les gens, parce que bon, il y en a qui savaient que j'étais politique, mais ils disaient, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est devenu fou, il a fait un hold-up, quoi, il est là, comme des... Ça fait rien. Bon, on nous amène au quartier de l'Ejército, où me reçoit un officier qui a été très très aimable. Il m'a dit, mais vous avez été maltraité. Il dit, bon, on m'a donné quelques coups, tout ça. Il dit, mais à l'armée, on ne fait pas ça. Bon, il a essayé, je ne sais pas, ça me surprenait. Ça veut dire qu'il y avait des secteurs de l'armée qui commençaient à être un peu, c'était très ultra. Mais j'étais très surpris que quelqu'un me parle non allemand. Et en fait, j'ai eu la même impression à la prison. À la prison, on était dans des conditions très difficiles. Mais de voir des gens normaux qui ne nous maltraitaient pas, qui nous disaient même enfin, qui étaient attentifs avec nous, qui nous disaient faites attention, vous allez vous promener à part, vous n'allez pas aux douches avec les autres. Ça, on ne comprenait pas pourquoi. Ils disaient, nous, on est des pros. Enfin, on voulait jouer le prolétaire, on veut être avec tout le monde, on est avec le peuple. Ils disaient, ouf, vous ne savez pas ce qu'il y a ici, vous risquez de vous faire violer dans les douches de la prison, vous êtes jeune, vous ne vous rendez pas compte, il y a des gens ici qui sont depuis de longues années en prison. On découvre un monde. On était dans une cellule, c'était très dur parce qu'on était 5 dans une cellule pas plus grande que ça, je ne sais pas combien il devait avoir, 15 mètres carrés, les lits les uns contre les autres, et un trou au milieu, une sorte de trou, on devait faire nos besoins là devant les autres sans aucune fenêtre ni rien. C'était pas évident.
Sementare, lo guiño de crarear, en tanto no puedo medre un menino, un bello y un cantar. Sementare, lo guiño de crarear, en tanto no puedo medre un menino, un bello y un cantar. Un menino revoltero que fale la lingua vai, que su voz vexedero sa fruita verde robó. Sementare, lo guiño de crarear, en tanto no puedo medre un menino, un bello y un cantar. Sementare, lo guiño de crarear, en tanto no puedo medre un menino, un bello y un cantar. Un bello que dé consellos, un rostro de fume pan, que conte con todos os nenos do pupe do pastallá. Sementare, lo guiño de crarear, en tanto no puedo medre un menino, un bello y un cantar. Sementare, lo guiño de crarear, en tanto no puedo medre un menino, un bello y un cantar. Un cantar de redención, un bello y nuevo cantar, que troquea desolación, no limpa carboreal. Sementare, lo guiño de crarear, en tanto no puedo medre un menino, un bello y un cantar. Sementare, lo guiño de crarear, en tanto no puedo medre un menino, un bello y un cantar.
Loco deixa y me morrer entre dos recos queimado, cando veñan os solpones dos homeses famiados.
Sementare, lo guiño de crarear, en tanto no puedo medre un menino, un bello y un cantar. Sementare, lo guiño de crarear, en tanto no puedo medre un menino, un bello y un cantar.
À cette occasion-là, tu as rencontré une personne qui a été un des derniers garrottés par le franquisme.
Oui.
Fusillé.
Je connaissais Humberto Vainalon, enfin, je ne connaissais pas son vrai nom, mais c'était un des collègues. Et en fait, il avait pris ses distances, j'insiste, il avait pris ses distances un peu avec le groupe, parce que le groupe commençait à appeler à la lutte armée, à toutes des choses comme ça. C'est vrai qu'on. Même moi, ça me faisait un peu peur, on rentrait dans une phase un peu forte. Mais je le connaissais dès vite, je connaissais la personne, je ne savais pas qu'il s'appelait Humberto Vainalonge. Et donc, lui, il était parti de chez lui. À pied, pour faire le chemin de Saint-Jacques. Le chemin de Saint-Jacques, beaucoup de gens le font, en dehors des questions religieuses, comme un lieu de randonnée, un lieu de promenade. Comme il savait que la police, il y avait des problèmes, il a dit, je vais faire le chemin de Saint-Jacques. Mais la police, entre-temps, est allée à Vigo, il était de Vigo, et sa famille a dit, on ne sait pas où il est parti, je crois qu'il fait le chemin de Saint-Jacques, tout. Bon, ils l'ont arrêté. Je ne sais pas si c'était dans les chemins ou en arrivant. Et donc, il est arrivé 3 ou 4 jours plus tard, non, une semaine au moins plus tard, quand on était en prison, il est arrivé là avec d'autres. On était à trois cellules de la prison pleines. Mais lui, il était tout seul avec un autre. C'était 2 ou 3 dans une cellule. Il nous faisait un mi parce que c'était petite, mais il pouvait respirer. Il y avait moins de problèmes que nous. On n'avait aucune intimité ni rien. Et quand je pense qu'il a été condamné à mort, exécuté, accusé d'avoir tué un policier alors que je le connaissais très bien, c'est quelqu'un qui aimait la nature, qui est incapable de tuer une mouche. Je ne crois pas. Et je sais que sa mère, sa sœur, son frère, ils sont continués à demander que le procès soit réouvert, parce qu'en fait, je crois qu'ils l'ont confondu avec... Il était dans les frappes, Frente Revolucionario, antifascista et patriotico, qui était lié au Partido Comunista Marxista-Léniniste, un peu, que c'était les fronts armés du Partido Comunista Marxista-Léniniste. C'est un parti qui était très proche d'un autre. On était, d'ailleurs, on avait entamé des conversations, des directions, pour voir si on arrivait à fusionner ou non. Mais... J'ai du mal à imaginer Humberto Baena Alonso de tuer quelqu'un. C'est-à-dire qu'il était un démocrate. Peut-être on l'a confondu avec quelqu'un d'autre, parce que c'est vrai que des gens du Frappe, ils savaient, il y a une période, ils faisaient des attentats contre les forces de l'ordre, parce qu'ils avaient mis en pratique cette idée dès qu'il fallait finir avec l'État répresseur, parce qu'on ne voyait pas aucune possibilité à l'époque de transition démocratique. Et voilà, donc j'étais en prison avec lui, je me dis, mais j'aurais pu être mort, j'aurais pu être un de ceux-là, pareil que Puigcentich, je l'ai connu à Toulouse aussi, Puigcentich, mais je ne savais pas qu'il était anarchiste, qu'il était militant del MIL, Movimiento Ibérico de Libération, je l'ai connu que Puigcentich comme étudiant de Catalogne, qui était venu nous voir à l'appartement qu'on avait à Toulouse, et d'ailleurs j'ai eu des problèmes, parce qu'en étant à Toulouse déjà réfugié politique, j'ai eu la police qui a dit oui, votre nom apparaît, donc j'ai eu quelques problèmes.
Voilà, donc on revient en 70-71. José Humberto Baena Alonso, que tu évoques, sera fusillé avec quatre autres de ses camarades le 27 septembre 1975. Toi, tu vas t'en sortir de cette prison, tu vas arriver retrouver à l'air libre.
Voilà, au bout d'un mois, on nous dit qu'on peut sortir si on paye une fiance. Fiance, on dit. Une caution, une fiance en espagnol, une caution. Et donc, moi, pas question, je dis, mais il n'y a pas que ça, je ne sais pas combien il demandait, j'ai oublié les chiffres, mais c'était une chiffre, pour moi, astronomique. Et je dis, je ne veux pas que ma mère, si encore c'était 1000 pesetas, un truc comme ça, on aurait pu imaginer, mais c'était assez important. Et donc, il y avait parmi nous des gens, des collègues qui étaient fils de des gens qui étaient plus aisés, qui sont sortis. Et tout d'un coup, un jour, on m'a dit, il y a un taxi qui vous attend, vous sortez. Je dis non, mais je refuse. Je dis, vous sortez. Et alors, je sors et c'était un taxi, c'était mon oncle curé qui avait téléphoné, il était curé dans un petit village de Galice, Sobrado dos Monjes, Sobrado de los Monjes en Lugo. Et il avait un de ses... Comment je dirais de ses, pas clients, mais...
Paroissiens,
merci, qui était parti chauffeur de taxi à La Corogne, il lui a téléphoné, il lui a dit, tu vas chercher en prison mon neveu. Et les chauffeurs de taxi ont dit, qu'est-ce que tu as fait, pourquoi tout ça? Il a dit, il avançait l'argent, et il avait donné l'argent, mon oncle le curé. Et il dit, je ne monte pas dans le taxi, vous pouvez partir. Quoi? Si tu ne montes pas dans le taxi, qu'est-ce qu'il veut dire à ton oncle? Tu montes. Il dit, mais attendez, d'abord quand je suis sorti des prisons, j'ai failli m'évanouir. C'est très étrange parce qu'on n'en parle pas souvent, mais on est habitué à faire des pas très peu de pas, et on est enfermé. Quand on sort au patio de la prison, on marche, mais très peu. Et tout d'un coup, voir l'air libre et marcher plus de 10 pas ou 20 pas d'affilée, tout droit, on a tous les gens qui sortent des prisons racontent ça. On a besoin de s'asseoir parce qu'on le sent, c'est une sensation étrange. Et je ne fais qu'un mois. Imaginez ce qu'ils ont fait des années, je pense à tous les santé franquistes. On a une sorte de vertige. Et moi, je me suis déjà engueulé avec les chauffeurs de taxi qui m'ont insulté parce qu'il dit qu'est-ce que tu as fait, tout ça. Il dit mais voilà, je suis un militant politique. Il dit oh, tu connais rien, tout ça. Il dit écoutez, je ne monte pas dans le taxi. Tu montes, sinon tu sors une claque parce que maintenant il manque que ça. Que je dis à ton oncle que tu n'as pas voulu monter alors qu'il m'a dit de venir et qu'il doit me payer. Il a dit qu'il payait les taxis et tout. Il dit bon, écoutez, pour mon oncle, parce que vraiment, mais j'étais gêné et fâché. Je voulais pas, mais je ne pouvais pas faire autrement, mais je ne pouvais pas refuser de sortir. On m'a dit, vous avez payé. D'ailleurs, on te déshabille, on te donne à nouveau la ceinture, les chaussures, parce que là-bas, on ne pouvait pas avoir de cordonnier de zapatos, comme dans toutes les prisons. On t'enlève la montre, on ne sait pas quelle heure était, ni rien. Bon, il fallait toujours demander ou regarder. Bon. Et voilà, donc je suis sorti des prisons. Et là, quand je suis revenu à Saint-Jacques, j'ai vu que les gens ne me parlaient plus, que j'ai eu des problèmes, des gens, même des gens qui sont devenus après des cellules importantes, socialistes, d'autres, les gens étaient terrorisés. J'avais des nouvelles, un ami à toi a été arrêté parce qu'ils lui ont trouvé un livre que tu lui avais prêté. Je vais voir un ami, son père me dit ne viens plus le voir parce qu'on sait que tu es communiste. En plus, ça ne voulait rien dire, communiste. Parce que moi, j'avais envie de leur dire, non, je ne suis pas communiste, je déteste l'Union soviétique, c'est devenu un appareil répressif, ils ont fait plein de crimes. Mao aussi, il était en train de faire plein de crimes aussi, mais on ne les savait pas, on était un peu innocent. Mais on ne pouvait rien dire. Alors je voyais que les portes se fermaient, je me repliais sur moi-même, je n'arrivais pas. Même les amis d'enfance, qui n'avaient rien à voir avec les lycées et tout, ils me disaient bonjour, mais ils ne voulaient pas s'arrêter. J'étais étiquetable. J'avais une étiquette des révolutionnaires ou des communistes. Et c'était très très pénible parce qu'à un moment donné, je reçois une enveloppe et il dit, vous allez vous passer le contrôle pour aller faire le service militaire. Et j'y vais, et le monsieur qui nous prend les mesures, il marque le poids et tout, il m'a dit, nous on sait traiter, on sait comment s'occuper des communistes. Il dit, pardon ? Il dit, mais tu crois qu'on est innocent ? Mais tu es bien connu, toi. Il dit, mais quoi, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais non, on t'attend à l'armée. Tu vas venir à l'armée et tu vas savoir comment s'occupe l'armée des dissidents qui attaquent Franco et tout ça. Il dit, mais c'est pas possible. Mais tout ça, pendant qu'il me parlait que je devais rentrer dans une caserne, qu'on allait me donner un uniforme, tout ça. Il dit, mais alors je vais passer. Maintenant, passer un jugement. On me demande 200 et demi de prison, plus... à 6 mois de l'ancien procès, plus 200 de services militaires. Je vais passer 5 ans de ma vie, mais complètement pourri, enfermé. Quand on est jeune et qu'on a envie de je dis, c'est pas possible. Mais j'étais déprimé, je pouvais pas supporter le... Bon, je rentre pas dans les détails, mais le manque de liberté, le manque de... Et ma mère était très malheureuse parce que bon, on avait mes sœurs avaient eu des problèmes parce qu'ils sont venus, ils ont fouillé tout le placard, ils ont jeté tout, ils cherchaient la propagande, ils cherchaient tout, ils n'ont rien trouvé. Mais chaque fois, ma famille souffrait de ma présence. Et ma mère, il s'est méfié de moi, il dit, ça y est, tu vas aller là. Mais il dit, mais maman, sois tranquille, je vais pas, je sais qu'il y a une manif, je vais pas y aller, tu comprends bien que je vais pas y aller. Et alors, il y en avait un ami de Ferrol qui avait connu Marie-France, une collègue, une étudiante de la fac d'espagnol, fille de républicains espagnols, qui était gallega, et qui lui a dit, parce qu'elle venait tous les étés à Ferrol, où elle voyait des cousins de sa famille, qui lui a dit, écoutez, il vous faut partir en France, demander l'asile politique, je peux m'occuper de vous recevoir à Toulouse. Il vous faut arriver, on va essayer de faire un contact. Et à travers des amis des Bilbao, on a trouvé un contact et on est parti. Donc j'ai essayé 2 fois, là aussi une fois j'ai réussi. On avait un contact à Bilbao, c'était un peu dur, parce que c'était des gens très froids, parce qu'ils risquaient énormément. C'était un travailleur, un ouvrier, et qui était en contact avec des gens de l'ETA à l'époque, qui nous ont fait passer les Pyrénées clandestinement. Voilà.
Dissonance
avec
Enrique Fraga
sur Radio Centrafrique.
Tu es donc arrivé, après cette traversée pédestre, finalement à Toulouse. C'était voilà. En 1971.
Ah oui, à Toulouse, je suis arrivé. Et il y a un prof de fac, Michel Camprouvi, qui était donc républicain d'une famille de tradition anarchiste, et qui est passé nouveau-né dans les bras de sa mère, les Pyrénées, pour venir à Toulouse, enfin plutôt à l'Hérault, et puis il est venu faire des études à Toulouse. Il est arrivé à devenir prof de fac de grammaire espagnole. Lui, il nous a accueillis grâce à cette étudiante qu'il avait comme étudiante, qui lui a parlé de nous, il nous a accompagnés au commissariat en disant qu'il nous connaissait depuis très longtemps, qu'il savait qu'on était des anti-franquistes et tout. Alors que lui, il s'est méfié des maoïstes. Il disait, ouh, vous êtes maoïste, tout ça. Bon, moi, je ne veux rien savoir, vous, vous êtes anti-franquiste. Et je me dis, c'est des choses que peu de gens feraient sans connaître, sans savoir ce que tu as fait, d'où tu viens, sans savoir de rien, simplement parce qu'il avait l'intuition, on lui avait dit qu'on était des anti-franquistes. Ça, je suis très, très reconnaissant. Et voilà que la police m'a dit, vous êtes mineur sur la selon la législation espagnole, et on va vous rendre en Espagne. Les autres peuvent rester, vous allez faire les démarches pour de l'OFPRA, l'Office français d'apatrie de réfugiés politiques. Et là, je téléphone à ma mère, il dit, maman, il faut que tu m'ailles chez un notaire, et que tu me dis, encore, mais vraiment, qu'il y a des problèmes avec toi, tu sais, quand tu vois, la police est venue, tout ça, et tes sœurs, bon, je ne vais pas parler, parce qu'elle avait peur. Je téléphone à mes sœurs, il m'a dit, oui, la police est venue plusieurs fois, ils continuent à fouiller, ils veulent savoir où sont tes adresses, tes contacts, et tout, mais... Moi, j'étais malheureux, parce que c'est ça qui est terrible du fascisme, c'est que, qu'une personne... face des actions politiques dont elle est responsable et dont elle peut assumer les conséquences, ça va, mais que toute ta famille ait des implications, y souffre parce que tu es connu. C'est ce qui arrive dans toutes les dictatures, c'est ce qui arrive en ce moment en Turquie, en Syrie, en tous les lieux des dictatures, ou en Corée du Nord, ou en... C'est l'effet de faire payer à toute la famille le fait qu'il y a un brevet noir, quelqu'un qui est différent, quelqu'un qui pense autrement. Ça, c'est terrible. Ça m'a fait donner une rage antifranquiste découplée. Et alors, ma mère a dû aller chez son notaire et faire un papier disant qu'il m'autorisait, étant mineur, m'autorisait à voyager par train, avion, voiture, traverser éventuellement une frontière si je le souhaitais, tout ça. Et que j'étais libre. Et avec ces documents, la police m'a dit oui, parce que j'avais la trouille, qu'on me rende, et il l'avait fait avec d'autres. J'ai appris d'ailleurs, quand j'ai passé la frontière, les guides basques qui m'ont accompagné jusqu'à la frontière, ils m'ont dit fais attention, hein, parce qu'ils prennent les gens dans la frontière, si la police française, la gendarmerie te trouve, on te ramène directement, ils ne veulent pas trop. Là, j'avais un peu peur.
Et donc, 1971, tu as l'autorisation de rester sur l'État français. Le franquisme, lui, va baisser les bras, va disparaître en 1975. Comment tu as vécu ces quatre dernières années où tu disais que ta haine contre le franquisme se décuplait, alors que tu côtoyais des gens comme Dumil qui étaient encore actifs, que tu as vu ton camarade Humberto Bane Alonso fusillé? Comment tu as pu percevoir ça, toi, à distance?
D'abord, on a créé une association des estudiantes democráticos españoles. Et on a créé une association dans laquelle on avait réussi à faire entrer tous les Catalans, les gens qui venaient d'Espagne et qui venaient pour faire des études à Toulouse, des ingénieurs, à l'INSA. Et donc, on avait créé une association qui était puissante. Et à partir de cette association, où j'étais délégué de l'association des estudiantes democráticos españoles de Toulouse, on les entré en contact avec les communistes, les socialistes et les anarchistes, on a créé un comité de solidarité avec l'Espagne. Et on avait réussi, on faisait et on collectait de l'argent avec des festivals d'Atahualpa Yupanqui, Paco Ibáñez, on avait fait dans la Logrin, on avait fait énormément d'activités et on réunissait de l'argent qu'on envoyait aux Astilleros de Ferrol, à différents grévistes qu'il y avait en Espagne, on distribuait aux syndicats, à Comisiones Obreras UGT en gardant un équilibre. Et donc j'étais en contact avec, en tant que délégué des étudiants espagnols de Toulouse. Et beaucoup de gens m'écrivent encore maintenant en disant grâce à toi, quand on est venu à Toulouse, on a découvert qu'on pouvait penser à une autre Espagne, qu'on pouvait lutter contre le franquisme et tout. Et ce qui me faisait peur à moi, c'est lorsque je revenais à Saint-Jacques après la mort de Franco, quand j'étais amnistié, de croiser dans la rue des gens qui m'avaient, je ne dis pas torturé, parce que pour moi torture c'est beaucoup plus grave, qui m'avaient maltraité, qui m'avaient frappé, les flics étaient les mêmes, ils étaient là. Ils disaient « c'est pas possible ». C'est pas possible qu'ils soient là et qu'ils ne rendent pas compte que personne... Et ma famille elle-même disait, non, c'est mieux comme ça, il faut passer la page et tout. Mais non, mais c'est... quand Fraga Iribarne, ministre après de la démocratie, qui avait été ministre franquiste, il avait lancé une campagne pour...